Chapitre 13. Un héros. C'était aux approches du printemps, quelques mois après le dernier voyage d'Antonin à Paris. Mois de travail enragé et d'illusions robustes que le brave cadet avait passé au milieu de ses dynamos, dans la fumée jaune de la Tamise et le bruissement de l'eau sous son usine grelottante. Malgré le mauvais numéro qu'il avait tiré à la conscription, ses amis de Paris lui écrivaient avec tant de certitude qu'il serait exempt pour cause d'infirmité, bégaiement, faiblesse des yeux. Il avait fini par y croire jusqu'à ce matin, hélas. Oh, l'affreux matin d'avril, pluvieux et noir, où, revenant du conseil de révision, il entrait chez les dames Eudeline en leur jetant ce cri désolé. « Bon pour le service, mes chéris !» Décidément, le marchand de bonheur dont je vous ai parlé, passant ce jour-là devant le magasin de la lampe merveilleuse, n'aurait pas eu encore cette fois le désir d'y faire son installation. À travers les hautes vitrines ruisselantes de pluie, où luisaient, comme des morceaux brisés d'arc-en-ciel, les petits lampyrs bleus, verts et roses, c'était si triste de voir la maman effondrée dans le comptoir, embobelinant son chagrin de compresses d'eau sédative, et Tonin, assis en face d'elle, songeant avec épouvante qu'il en avait pour 5 ans à servir dans l'infanterie de marine, où le classait son mauvais numéro. Jusqu'à la petite Dina, qui, à l'idée de rester si longtemps loin de ce frère qu'elle adorait, à qui elle confiait tout son cœur, venait de prendre un accès de colère dont elle était encore toute tremblante. Qu'est-ce qu'elles allaient devenir, mon Dieu, sans la chaleur de ce bon sourire de Tonin et de tout ce que ses petits yeux sans cils vous envoyaient de tendre, de secourable. Pour l'achever, son Claudius, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 1 mois, dont elle ne savait rien, sinon qu'il n'habitait plus l'Engadine. Chère petite Dina, il lui en fallait du courage et de la confiance en ses médailles pour se forcer à reprendre goût à l'existence, à aller au bureau comme les autres matins, avec toutes ces tristesses et ce ciel noir et cette rue boueuse où elle entendait les marchands de journaux crier pendant qu'elle mettait ses gants et son chapeau devant la glace. « Demandez le matin, la chute du ministère, dernier moment du cabinet Valfon. » Elle lui était indifférente à la chute du ministère, mais quelle menuée de fantômes, quelle soirée inoubliable ce nom de Valfon évoquait pour elle. Oh, les marquises et les bergères, et les satins et les houlettes, et cette belle Florence Marquesse, si mystérieusement disparue, emportée par des chevaux blancs sur un char écrasé de roses blanches, un jour de cet hiver qu'il était tombé tant de neige. Elle secoua ses boucles blondes pour chasser ses apparitions, et, jetant sa besace sous son bras, « À ce soir, maman, tu viens de mon côté, Tonin ?» Non, Tonin n'avait pas le temps de l'accompagner. Des clients à voir pour sa maison de Londres, des appareils à commander pour celle de Paris. Puis déjeuner avec son patron, M. Esprit, monter chez l'aîné un moment, lui annoncer la mauvaise nouvelle. C'était plus qu'il n'en saurait faire. La petite s'arrêta, la main sur la porte. « C'est tout de même drôle que je ne puisse pas aller voir Raymond, moi aussi, parce qu'il reçoit de certaines personnes. Moi qui me suis donné tant de mal pour coudre ses rideaux, lui draper toute sa toilette. Et puis, défense de regarder. » Un éclair de gaieté passa dans ses yeux bleus. « Tu as dû en rencontrer chez lui de ces jolies madames, dit frérot. Ont-elles bon genre au moins ?» Maman Eudeline fit la grosse voix. « Dina !» Mais déjà, la porte était refermée, le petit chapeau rond en route avec la besace dans la direction du bureau central. « Demandez la chute du ministère, dernière nouvelle du cabinet Valfon !» criaient les hideux camelots. Et la petite télégraphiste songeait, en traversant sous une pluie fine la large chaussée en flaques d'eau du boulevard Saint-Germain, « J'en sais un qui l'a demandé la chute du ministère et qui doit être heureux de cette revanche à l'injustice que lui ont faite les Valfon, les Marjavel, en le mettant à pied comme s'il y avait trop de braves gens au service de l'État. » Et précisément, sur le même trottoir que la petite, voici venir, du côté du Palais Bourbon, celui à qui elle est en train de penser, reconnaissable de loin à sa taille courte et massive, à ses larges pantalons à la hussarde, qu'il est seul à porter depuis longtemps, et à cette longue barbe blanche qui, dans le Paris de ce temps-là, n'avait que celle du peintre Meissonnier pour rival. Eh bien non, Pierre Isoard a l'air étrange ce matin, mais la chute du ministère n'est pour rien dans son exaltation qui paraît manquer de joie. Il marche avec des gestes furieux, une expression de violence que Dina ne lui a jamais connue. Il passe à côté d'elle sans la voir, sans s'arrêter. On se retourne sur ce petit homme qui s'agite, parle tout haut. Qu'est-il arrivé au père de Geneviève ? Peut-être la fin de la session qui approche, et avec elle, le moment pour le vieux scénographe de quitter son emploi, de s'en aller de ce palais Bourbon, où il demeurait depuis près de 20 ans. Comme tout change pourtant, comme la vie est pleine de tournants, de surprises. Dina se rappelle les bonnes soirées qu'elle passait avec la tantine, le dimanche, dans le petit appartement de la cour Sully. Pouvait-on imaginer un intérieur plus doux, plus tiède, un cœur à cœur plus serré que celui du vieux père et de sa fillette? Maintenant, quand on va les voir, et que par extraordinaire, on les trouve tous les deux, on les devine gênés, lointains l'un de l'autre, et leur malaise vous a vite gagné. Pourquoi cela? Est-ce une loi de l'existence? Est-ce nous qui nous transformons fatalement, qui devenons plus sombres, plus âpres avec l'âge? Ou sommes-nous victimes des circonstances? Ainsi, trottant et philosophant, la petite télégraphiste est arrivée au coin de la rue de Grenelle, presque en face du bureau central. Une voiture de maître stationne devant l'entrée, et le garçon de bureau, debout respectueusement à la portière, sa casquette galonnée d'or à la main, voyant s'approcher Mademoiselle Eudeline, la signale à un vieux monsieur peint en jeune, très long, très sec, la barbe et les sourcils trop noirs, les yeux trop brillants, qui s'élance aussitôt du coupé et fait un pas au-devant de la jeune fille. Il la considère un moment avec attention, comme un bon canu inspecte une pièce de soie, fait claquer sa langue 2 ou 3 fois en connaisseur, puis se présentant « Je suis le papa, mademoiselle, Tony Jacquin, sénateur de Lyon. Claudius est à Paris et désire vous voir. J'avoue que je le comprends, surtout depuis 5 minutes. Je vous emmène rue Cambon. Venez vite. » Dans le ministère, on entendait les sonneries du changement de service. Un va-et-vient d'employés des deux sexes se hâtait, se croisait sous le porche. Et chacun, en passant, les femmes surtout, regardait curieusement cette petite Deline que les sénateurs venaient chercher en voiture, ma chère. Jusqu'au soir très tard, les salles de travail, le lavabo, le vestiaire, restèrent en rumeur à la suite de cette visite. Seul en voiture, à côté de ce vieux noceur aux yeux de diable, dont les longues jambes tenaient toute la place, une autre que Dina aurait eu peur. Mais la petite idolâtre avait ses Manitou, et rayonnant d'une joie naïve, elle demanda tout de suite au vieux Tony. « Oh, monsieur, je vous en prie, dites-moi comment il va !» C'était si droit, si pur d'intonation, que le père, touché au cœur, répondit spontanément « Mieux, bien mieux, ma chère petite, je le crois sauvé. » Mais aussitôt il se reprit, plein de méfiance. « Seulement, je vous préviens, pour que la guérison soit complète, il faut 18 mois, 2 ans. Vous attendrez 2 ans pour vous marier. Vous entendez, petite fille ?» 10 ans s'il avait voulu, à la condition qu'on leur ménageât de temps en temps un rendez-vous délicieux comme celui-ci. En arrivant rue Cambon, elle l'aperçut, assis dans le jour d'une croisée, son plaid de voyage sur les genoux, accoudant au bras du fauteuil, sa tête pâlie par les 2 grands sapins de l'autre côté de la rue. Il lui parut maigri, le front et les yeux plus grands, avec ce pli de résignation dont une longue souffrance poinçonne les jeunes visages. Lui battit des mains en la voyant et cria dans un râle de joie « Père, père, qu'elle est jolie !» D'un élan, elle fut à ses genoux, serrée, blottie contre son fauteuil, pendant que Tony Jacquin s'installait à l'autre fenêtre devant un guéridon chargé de journaux, disant aux amoureux de son accent lyonnais, traînard et mou « Les feuilles sont amusantes ce matin, je vais les lire ici pendant 1 heure. » Vous avez 1 heure à vous pour vous raconter vos fichaises. Après, je reconduirai mademoiselle à son bureau et j'irai faire ma visite à madame Deline. » Il ajouta, tourné vers eux, le doigt menaçant. « Seulement dans 2 ans, vous savez, les gones. » « Oui, mon père, dans 2 ans. » Et sans plus s'occuper les uns des autres, l'ancien canu lyonnais, annonçant ses journaux à haute voix pour mieux comprendre ce qu'il lisait, les jeunes gens se chuchotant de tout près les jolies fichaises qu'ils avaient à se dire, Un dialogue de politique et d'amour s'engageait entre eux, pareil à celui que, sous leurs fenêtres, le gazouillis des moineaux et des merles dans le jardin en face alternait avec le cri des camelots de la rue. « Demandez la chute du ministère ! Le dernier jour du cabinet Valfon !» Promenée dans Paris depuis le matin, cette clameur le remplissait, avait son écho dans tous les quartiers, à tous les étages. Au déjeuner de son patron Esprit Cornat, chez tous les clients qu'il visita dans la journée, Antonin n'entendit parler que de cette chute ministérielle, aussi bruyamment que savamment annoncée. Raymond, quand son frère arriva, déclamait sur le fait du jour en achevant de s'habiller et gravitant de son cabinet de toilette vers le salon où l'attendaient deux ou trois bons types de faméliques qui n'avaient rien de la tenue ultra correcte ni du langage prétentieux des jeunes voraces. Les joues complaisamment offertes à son cadet, sans même se donner la peine de le présenter, l'aîné des Eudeline reprit sa phrase et son geste interrompu. « Ne vous y trompez pas, messieurs. Cette question des bouilleurs du cru, sur laquelle est tombé le cabinet Valfon, est des plus graves. Pour une fois, ces aigres fins avaient le bon droit avec eux. Mais il vaut mieux, après tout, laisser les braves gens se charger des saines besognes. Quant à moi, si jamais j'entrais à la chambre... « Tes gants, mon ami !» dit Geneviève, s'approchant de l'orateur dans un peignoir de laine, ses belles nattes mal rattachées, trop lourdes pour sa petite tête. « Tu sais ce qui arrive à ton frère ? » continua-t-elle à voix basse. Pendant la minute que dura leur causerie, Antonin, qui les regardait, timide debout dans un coin du salon, fut frappé par l'expression lasse et découragée jusqu'à la souffrance de la jeune femme qu'il avait laissée rayonnante de santé à son dernier voyage. L'aîné, lui, toujours superbe avec son teint de soleil et ses boucles dorées, avait pris dans l'allure quelque chose de cynique et de débraillé. Sa façon de parler n'était plus la même. Il vint vers le petit, lui mit un bras protecteur sur l'épaule. « Te voilà donc marsouin, mon pauvre vieux. Enfin, qu'est-ce que tu veux ? 5 ans, ça se tire comme le reste. » Tonin prit son élan pour répondre. « Surtout si je te sens près de notre mère, mon grand. » Mais il n'en eut pas le temps. Raymond avait gagné la porte, suivi par ses deux estafiers et le mélancolique « au revoir » de son ami. « Oui, oui, au revoir !» grinça le joli garçon d'un air excédé. Resté seul, Antonin demanda à la tantine si son frère avait de l'ennui. Il le trouvait tout changé. « Mais non, rien, je t'assure, Raymond est toujours le même. » Cadet savait à quoi s'en tenir et continua. « Est-ce que la famille française ne va pas ? Il me semble qu'on en a guère parlé. » Tantine n'en voulait pas convenir. On avait beaucoup parlé de son livre, au contraire. Pour un débutant, on ne pouvait espérer mieux. L'illusion était de croire qu'un ouvrage signé de nom inconnu rapporterait beaucoup d'argent. Le pauvre Raymond, toujours préoccupé de ses responsabilités, avait eu une cruelle déception de ce côté-là. Par bonheur, c'était fini. Il n'y pensait plus maintenant. Aurait-il renoncé à la littérature ? Dit Tonin. Je vois là-dessus des tas de livres de science. Son geste effaré montrait la table au milieu du salon, chargée de bouquins de médecine. Geneviève avoua, un peu gênée, qu'en effet il y renonçait pour le moment. « Oh, rien que pour le moment !»« La route est trop encombrée, tu comprends, entre qui veut dans les lettres. Il n'y a pas de douane, point de surveillance. Et puis, trop d'envieux et de méchants dans ce métier. J'ai été contente de le voir se mettre à la médecine. » Cadet trouva qu'en effet, l'idée était excellente. Et il s'y est mis avec un grand courage, le cher ami, surmontant les répugnances que soulèvent en lui la laideur, la maladie. « Il est si beau !» soupira le petit frère. « Et Geneviève ?»« Oh, je suis témoin des efforts qu'il a faits, mais vraiment, l'anatomie l'écœurait trop, il n'a pas pu. » Tonin la regarda avec stupeur, puis laissant aller ses mains découragées, « C'est vrai que s'il ne pouvait pas... »« Depuis quelques jours, il s'occupe de politique. Il a de l'assurance, une voix bien timbrée. » En parlant, elle se levait pour entrouvrir les fenêtres du salon, saturées d'une forte odeur de pipe par les visites du matin. Il était question d'élire un conseiller municipal à Charonne. On lui demanda de se porter. Seulement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. » Antonin, rougissant, balbutia. « Vous devez en manquer d'argent. Les avances de son... Enfin, n'est-ce pas, le chose doivent être loin ?»«
Oh non, pas encore. »
Il y eut entre le silence et la gêne qui mettait toujours cette question d'argent. Tout à coup, on sonna avec violence. C'était Sofia Kastanyozov, les lunettes de travers, des cheveux de noyer collés contre ses joues. En entrant, elle jeta son chapeau ruisselant de pluie sur la table et sauta au cou de son amie.
« Raymond est sorti, alors c'est toi que j'embrasse. C'est à toi que je demande pardon et au petit en même temps, puisque j'ai la chance qu'il soit là. »
Tantine, très froide, se dérobait. Mais la Cosaque tint bon. « Laisse-moi donc tranquille. Tu ne vas pas faire la fière avec ta vieille casta. Eh bien oui, je me suis trompée. Raymond est un brave garçon, incapable de la mauvaise action dont je l'accusais. Je connais le vrai délateur, celui qui livra Lubniac à la police. Il est venu à moi faire ce que je fais ici, demander pardon. Mais nous en parlerons plus tard. Pour le moment, nous avons à nous occuper de choses plus pressantes. » Elle souffla, suffoquée par l'émotion, les étages, puis annonça la terrible nouvelle. Dans une heure, peut-être avant, Pierre Isoard serait là. Geneviève, épouvantée, se soutint des deux mains à la table.
« Mon père, c'est la fin !»
Cadet essayait de la rassurer. Était-ce bien sûr? Comment Sophia savait-elle?
« Comment je sais? Par votre sœur, mon cher Tonin. Cette exquise petite Dina, qui a rencontré M. Isoard chez sa mère, et bien que bouleversée elle-même, vous saurez pourquoi ce soir, a songé à prévenir ses amis du danger qui les menaçait. Une lettre anonyme arrivée, paraît-il, après plusieurs autres, avertissait le père de Geneviève que sa fille ne travaillait pas avec Sofia Kastanyozov. S'il voulait savoir où et comment elle passait son temps, il n'avait qu'à se rendre boulevard Saint-Germain, numéro 1, quatrième étage, porte en face. Geneviève murmura d'un ton désespéré
« Si c'est ainsi, il n'y a plus rien à faire. »
« Rien à faire absolument, » appuya la Russe, mais avec un tout autre accent. « Ton père va venir, il te trouvera chez moi, travaillant avec moi. Nos livres, notre table. Il y a même deux chaises devant la table. S'il s'informe avant de monter, Madame Alcide a mes instructions. S'il monte tout droit, je me charge de lui parler. »
Antonin, dont le regard effaré inspectait les meubles, les tentures, pour voir s'il ne s'y trouvait rien de compromettant, s'informa comme traversé d'une méfiance subite.
« Monsieur Isoard ne sait donc pas que Raymond habite ici ?»«
À coup sûr, il n'y est jamais venu, » reprit Casta vivement. « Il y a si longtemps qu'il ne se voit plus avec l'aîné. Il lui en veut tellement de son livre, de sa liaison avec Madame... » Elle allait dire Madame Valfond, s'en aperçut et tourna court. « D'ailleurs, laissez-moi faire. J'ai roulé des juges d'instruction plus malins que Pierre Isoard. Je vous jure qu'il ne m'effraie pas. »
La tantine se redressa avec un mouvement de révolte.
« Non, merci. Assez de mensonges. Je n'en veux plus. Cette vie que je mène m'est odieuse à la fin. J'y suis très maladroite d'abord et il y a trop longtemps que cela dure. Le pauvre homme qui n'a que moi à aimer et que je condamne à une perpétuelle méfiance. » Par moments, on dirait qu'il veut m'éviter la fatigue et la honte de mentir. Quand je rentre, quand je sors, il ne me demande plus même « Où vas-tu? D'où viens-tu? » Nous sommes comme des étrangers. Ah, vous auriez bien du mal à la reconnaître, notre petite maison de Morangis, si joyeuse, si cordiale. On ne se parle plus, on n'a rien à se dire. À peine si nous osons nous regarder. On louche tout le temps. Qu'il vienne, mon Dieu, et qu'on en finisse.
« Tu es folle, mais il te tuera !»
La Cosaque avait bondi, rejetant ses cheveux de garçon derrière l'oreille. « Tu le connais bien pourtant, ce vieux Romain fier de sa Virginie et se croyant droit de vie et de mort sur elle. » Oh, le sourire navré de la tantine.
« Il me tuera, et après ?»
Sophie était indignée.
« Après, mais tu sais bien que le pauvre vieux ne pourra pas te survivre. Et ton Raymond, que veux-tu qu'il devienne sans toi ?» Et puis, il y en a d'autres encore qui t'aiment.
Oh oui, soupira le brave Tonin, dont le sanglot comprimé fit le bruit d'une ancre dérapant sa chaîne dans les pierres. Geneviève secouait la tête tristement.
Mais enfin, si je parviens à lui cacher la vérité aujourd'hui, même pendant quelque temps, il faudra bien toujours qu'il la connaisse. Un moment viendra. »
Elle eut un geste vague, un regard de pitié sur elle-même, que Sophia fut seule à comprendre.
« Ah, la bête !» lui dit-elle tout bas avec émotion. « T'es-je assez avertie pourtant ? Te l'ai-je assez montré, l'impasse où tu t'enfermais ? N'importe, nous avons 4 ou 5 mois devant nous, on s'en tirera. Au plus pressé d'abord, voici, Cadet va descendre, s'installer chez les Alcides. Ils sont prévenus, mais il peut y avoir une maladresse, excès de zèle, un de ces imprévus. »
Compris, le chose, je serai là. Il prenait son élan vers l'escalier, mais Sophie le retint.
Une idée, attends.
Les petits yeux de la slave luisaient d'intelligence et d'astuce. Elle tira une carte de sa poche.
Docteur Sophia Kastanyozov, ancienne interne des hôpitaux de Paris, fondation de l'œuvre des enfants malades.
Tonin, en s'en allant, n'avait qu'à clouer cette carte sur la porte. Ce serait une preuve de plus.
Geneviève attendit qu'il fût dehors.
« Je t'en prie, Sophia, » dit-elle alors très pâle et de sa belle voix sérieuse.
« Ne me mêle pas à ton vaudeville. J'ai le cœur trop plein de larmes, je ne saurais pas. »
Casta fit claquer 2 gros baisers de nourrice sur les joues de sa camarade et, la poussant par les épaules,
« Mais on n'a pas besoin de toi, mon petit. File dans ta chambre. »
La tantine était rentrée chez elle depuis un moment, quand retentit sur le palier le creux sonore aux vibrations de cuivre de Pierre Isoard, remerciant Madame Alcide qui avait monté l'escalier pour lui ouvrir, et répondait de sa plus belle intonation de faubourg
« De rien, monsieur, de rien. Ce que j'en fais, c'est histoire de ne pas déranger ma locataire. »
Le père de Geneviève entra d'un air hésitant, avec une amusante figure à double éclairage, à la fois piteuse et réjouie. Mais si, en arrivant, il gardait encore quelques doutes, le tranquille accueil de Sophie Kastanyozov, assise à sa table de travail, au milieu de ses bouquins de médecine et de pharmacie, des statuts et prospectus de l'œuvre des petits malades, acheva de tout dissiper, et il ne lui restait que l'embarras d'expliquer pourquoi il était venu.
« Je vous croyais installée à Ivry, ma chère Sophie. Vous êtes donc déménagée ?»
Sans se troubler d'une question assez inattendue, bien qu'il l'eût faite du ton le plus naturel et seulement pour dire quelque chose, elle répondit en lui montrant la chaise libre à son côté.
« Oh, j'ai quitté Ivry il y a longtemps. L'aventure de Lubniac et les visites domiciliaires de la police m'avaient dégoûté du quartier. Mais asseyez-vous donc, Pierre Isoard. »
Le vieux n'entendit pas. Il souriait et caressait sa longue barbe, signe chez lui de vive émotion. En s'approchant de la table, parmi les paperasses dont elle était couverte, il venait de se trouver tout à coup devant un portrait de sa fillette.
Ah, s'il ne s'était pas retenu, s'il avait pu prendre la chère image à 2 mains, la mettre contre sa bouche.
« Et pourrait-on savoir, maître Pierre, ce qui nous vaut cette extraordinaire visite ?» La Russe, en le questionnant, filtrait par-dessus ses lunettes de myope 2 petites flammes vertes.
« Je me doute bien que ce n'est pas pour Sophia Kastanyozov que vous êtes venu. »«
Si, si, je sais que vous lui en voulez à cette voleuse d'enfants. Et malheureusement, Geneviève aujourd'hui travaille au jardin botanique de Bayon. Vous auriez voulu la voir ?»«
Voir Geneviève ? Non, ma chère Sophia, et même... »
Il s'était assis à côté d'elle, près de la table, et tout bas, en lui prenant les mains.
« Si vous voulez faire un plaisir à votre ancien ami, ne dites pas à mon enfant que je suis venu chez vous. Elle voudrait savoir ce que j'y suis venu faire, et moi je rougirais si cette brave fille se doutait. Un jour je vous dirai, à vous, mais à vous seul, de quelle infamie je suis victime, l'affreux soupçon qui m'a conduite ici. Seulement je vous en conjure que jamais Geneviève... »
Il s'interrompit brusquement.
Pourvu que la gérante ne la prévienne pas. C'est la gérante, n'est-ce pas, cette tête de petit ratier qui s'est jetée derrière moi dans l'escalier.
Sophie le rassura. Depuis la guérison de leur enfant, Alcide et sa femme étaient toutes à elle. À ce propos même, une aventure singulière venait de lui arriver avec ces braves gens. Elle alluma une de ses grosses cigarettes russes et commença dans une auréole de fumée.
Vous vous rappelez, Pierre Isoard, quel était selon moi le délateur de Lubniac ? Vous aussi, il me semble, vous partagez mes soupçons. Eh bien non, nous nous sommes trompés, le seul coupable est précisément le mari de Madame Alcide, un ancien communard, déprimé par 10 ans de bagne et de chiourme, qui a gardé un respect, une terreur des sergents de ville, à ne pouvoir leur rien refuser. Mais le pauvre diable, quand il a vu que je venais de guérir leur enfant, leur petit incurable, a été pris d'un tel remords qu'il est resté des semaines enfoui dans sa loge, sans sortir, sans prononcer une parole. Ce matin, n'y tenant plus, il est venu, il est monté avec sa femme, me demander pardon en sanglotant. J'ai pardonné, à condition qu'il m'aiderait à faire évader Lubniac, car vous pensez bien que je tenterai tout pour cela. Oui, dussé-je retarder mon départ de 6 mois, de 10 mois, je me suis juré que ce brave compagnon n'irait pas finir sa vie à la nouvelle et que je l'emmènerais à Calcutta comme infirmier. Le Marseillais se leva de sa chaise. Il rayonnait. Je n'ai pas votre sympathie pour les fauves, ma chère Sophie. Mais dans ce que vous m'apprenez, une chose me fait plaisir, c'est l'idée que Raymond n'était pour rien dans l'arrestation de cet homme. J'en suis content pour mon vieux Victor Eudeline, qui a donné à ses fils l'exemple d'une mort héroïque, content pour sa pauvre femme et toute cette famille de gens d'honneur. Après tout, le petit avait raison, son frère vaut mieux que je ne pensais. Ce n'est pas lui qui est méchant, c'est sa génération, une génération de petits mandarins lettrés et féroces, mais je me rabâche et ma fillette n'aurait qu'à rentrer. » Cette rancune que le bonhomme gardait à la genèse, cette incompréhension des êtres et des idées du temps nouveau, tournée chez lui à la manie, allait peu de jours après se trouver soumise à une épreuve bien inattendue. « Voyons, Isoard, mon camarade, il faut être juste, que diriez-vous si parmi ces jeunes monstres... » C'était un soir de ce même mois d'avril, dans le salon blanc et or d'un antique restaurant des environs de la Bastille, ces fameux sergents de La Rochelle, dont le Marseillais parlait toujours, et qui eurent leur célébrité en 48, voire au premier temps du Second Empire. Avant de se mettre à table, en attendant quelques invités retardataires, Esprit Cornat discutait avec son vieil ami. « Oui, parmi cette génération à 1000 lieues de nous, sans idéal, sans croyance, si j'avais découvert un saint, un héros, que diriez-vous » L'ancien constituant, long et mince, de grands cheveux blancs tout bouclés et raides, sur un glabre profil d'oiseau de proie, parlait debout devant la cheminée. Pierre Isoard, allongé dans un fauteuil bas, sa barbe allégorique traînant jusqu'à terre, protestait de toute son indignation. Un héros, dans la jeunesse d'à présent, j'entends la jeunesse bourgeoise, éduquée, qui sait sur le bout du doigt Kant et Hartmann et Wagner et Nietzsche, qui se moque des vieux exaltés de 48, trouve le 2 décembre dans son droit et les revanchards de 70 tout à fait ridicules. Un héros parmi ces petites rosses, je vous en défie bien, mon maître. » Il baissa la voix et, lui montrant autour d'eux, dans le salon, toutes ces bonnes figures de comptables endimanchés, tous ces ouvriers électriciens engoncés de redingotes trop luisantes qui se tenaient silencieux et gênés sous les lustres et les dorures de ce pompeux salon d'attente. « Voyez ce qui se passe ici en ce moment. Pour le départ d'Antonin Eudeline, vous avez réuni ce soir tous ses camarades d'atelier, tous vos chefs de service, jusqu'à M. Alexis, l'ancien caissier de la maison Eudeline, dont je voyais entrer, il n'y a qu'un instant, toute mouchetée de verglas, l'antique roulière à pèlerine que je lui connais depuis 40 ans. Ah, les bons cœurs, les braves gens! Pas un qui n'ait répondu à votre appel. Le seul qui manque, et naturellement, c'est celui que les yeux du petit guettent avec le plus d'impatience, c'est Raymond, le grand frère, un de ces jeunes bourgeois dont nous parlions. » Monsieur Esprit, qui surveillait la porte lui aussi, sourit d'un air entendu. « Il est peut-être très occupé ce soir, le jeune Raymond. » « Pas du tout. Il se fait attendre parce que notre réunion n'a rien pour l'amuser, une fête sentimentale dans des quartiers perdus et par le temps le plus maussade. Car je vous ferai remarquer, mon cher maître, que nous sommes aujourd'hui le 12 avril et qu'il neige, ce qui du reste fait partie du détraquement général. Plus de printemps, plus de jeunesse. » On dira que je radote, mais quand j'avais 20 ans, les jeunes poètes intitulaient les vers de leur début « Chanson d'avril, rime printanière ». Ce n'est plus possible maintenant. Le comptable Alexis, bourgeois de Belleville, épais et flave, décoloré par les années, s'était approché timidement. Je me permets de rappeler à ces messieurs qu'à la fête de Louis-Philippe, le 10 avril, la garde nationale mettait ses pantalons blancs et que tout bon Parisien, ce jour-là, arborait son complet de Nankin.
« Ça date, le Nankin !» dit Esprit Cornat.
Le comptable continua. « J'ajouterai qu'à ce même 10 avril, l'après-midi, on jetait du Pont-Royal dans la Seine des couples de canards vivants que les gamins essayaient d'attraper à la nage. J'en ai gagné 3 paires 2 ans de suite. » Le Marseillais se mit à rire. « Allez donc vous mettre à l'eau avec la température qu'il fait aujourd'hui. » Un maître d'hôtel, majestueux et chauve, a présidé un des grands corps constitués de l'État, vint demander tout bas à M. Esprit s'il fallait servir. « Attendons encore, » répondit l'ancien. Le maître d'hôtel disparut, et avec lui, la vision, dans la salle voisine très éclairée, d'une table immense en fer à cheval, chargée de fleurs et de cristaux. Cette interminable attente rendait Antonin très malheureux. Certes, ce grand dîner, offert par le patron en son honneur, à la fois un remerciement pour le passé et pour l'avenir, un engagement pris devant tous, le sourire cordial de ses camarades d'atelier qui connaissaient si bien sa vie, l'estime de tous ses travailleurs était pour lui donner de l'orgueil. Mais rien ne tenait devant l'absence de son frère. Oh, l'aîné, son meilleur ami, son grand, manquer à ce dîner d'adieu, lui faire une pareille peine. Pourquoi ? Parce qu'il se trouverait avec des ouvriers, des contremaîtres. Mais est-ce que leur père n'avait pas été ouvrier ? Est-ce qu'Antonin ne le serait pas toute sa vie ? Depuis quelque temps, du reste, Raymond n'était plus le même avec son frère. Quand le petit venait le voir, il semblait le fuir, se cacher de lui. Le jour même, passant au boulevard Saint-Germain, Tonin n'avait trouvé que Geneviève, une Geneviève distraite, absorbée, dont il cherchait encore à comprendre la froideur, à la veille d'une absence aussi longue, une tantine sans effusion, sans tendresse, alors qu'il en aurait eu tellement besoin. « Va, mon enfant, il y a des malheurs plus complets que le tien. » Si pitoyable aux autres d'ordinaire, elle avait laissé tomber ses mots avec un air d'indifférence et de lassitude qu'il ne pourrait plus oublier. Que se passait-il donc dans le ménage de son grand frère? Où en était-il de leur bonheur? Raymond ne se déciderait-il pas à l'épouser? La laisserait-il aller jusqu'au bout de son sacrifice? Là-dessus, comme sur bien d'autres questions, il comptait s'expliquer ce soir-là avec l'aîné, profiter de l'effusion des tosses, du retour à deux le long des quais, dans la nuit, pour lui parler comme il n'avait jamais osé le faire. Mais le moyen, si Raymond ne venait pas dîner. Nouvelle apparition solennelle du maître d'hôtel. Seulement, cette fois, après quelques paroles à voix basse, Esprit Cornat l'a suivi dans la pièce à côté. Un moment d'angoisse, de silence, comme un pâlissement de la lumière, une hésitation des regards, tous tournés vers Antonin, qui, très ému, le dos arrondi, rentrant et dodelinant sa petite tête peureuse dans un collet d'habits où il pourrait disparaître, semble répondre à l'assistance avec le tremblement muet de ses grosses lèvres et de ses pauvres yeux clignotants. « Je n'en sais pas plus que vous !» Subitement, la porte s'ouvrit, mais à deux battants, haute et large, avec un fracas de cérémonie. Dans le cadre lumineux et fleuri que lui faisait la salle du festin et son énorme table, l'ancien constituant développait sa haute taille, ayant à son bras un svelte et jeune soldat de l'infanterie de marine, dont la blonde moustache et les épaulettes jaunes flambaient sous les lustres. « Mes amis, dit le vieux d'une voix forte, je vous présente Raymond Eudeline, engagé volontaire au 5e Marsouin, et en l'honneur de qui je vous ai tous réunis ce soir, car c'est pour remplacer son frère que ce courageux garçon entre au service, et c'est à lui que nous devons de garder notre camarade à l'atelier. » Il y eut une tempête de bravo, de trépignement, saluant l'acte héroïque avant même qu'il eût été bien compris. Blanc comme un somnambule, Antonin chancelait les bras en avant. Son frère vint à lui, le prit par les deux mains, et dans les hurrahs qui redoublaient, « La petite avait raison, frérot. Le vrai soutien de famille, le vrai fils aîné de la veuve, c'était toi. Moi, je n'étais que l'honoraire. Je l'ai compris un peu tard, mais je l'ai compris. Tu ne seras pas soldat, mon petit Tonin. Ma présence sous les drapeaux te libère. » Puis, se tournant vers le père qui se rapprochait d'eux avec esprit cornat triomphant, « Me pardonnerez-vous le chagrin que mon livre vous a fait, Pierre Isoard ?» Le Marseillais, bouleversé d'émotion, chercha une réponse expressive à lui faire. Il lui vint du grec et du latin, il lui vint du provençal aussi, des sentons historiques et des clichés de son temps de professeur. À la fin, il ouvrit les bras tout grands, prit le héros contre sa poitrine et la face rouge, vultuée, avec deux grosses larmes qui coulaient le long de ses joues. « Bun bougre !» dit-il d'une voix tonnante. Tous ceux qui connaissent notre peuple du Midi, ses vrais cris, ses vrais élans, savent que Pierre Isoard ne pouvait rien trouver de plus typique pour exprimer son admiration.